vos expériences, l'éclairage de ce que Michel vient de nous décrire, qu'est-ce que ça vous évoque et quelles sont les différences que vous voyez ?
Moi, par rapport au Burkina de mon expérience, hein, quand vous parlez du BRGM tout à l'heure, qui est effectivement un bureau qui centralise et qui est dans une approche encore colonialiste hein, sur l'exploitation en Afrique de l'Ouest. Donc l'objectif n'est pas d'aider, l'objectif n'est pas de faire en sorte que les gens saisissent les dangers ou puissent s'opposer. L'objectif, c'est d'amener les entreprises à exploiter le plus économiquement rentable possible. Donc, ce que vous disiez par rapport au fait de faire rencontrer des personnes d'Amérique du Sud et du Burkina, on n'y pense même pas parce qu'on n'aborde pas ces deux entités avec la même dynamique. On n'aborde pas ces deux partie du monde avec le même état d'esprit. Donc, du coup, je pense que l'idée ne viendra pas. Et même s'il y a une sollicitation de l'autre côté, ce ne sera pas perçu positivement. C'est mon sentiment. Et pour dire qu'on ne veut surtout pas... Pourra, c'était à l'époque tout le minerai pour un pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer, tout le minerai était mis dans des wagons et amené ici en France. Il n'y avait pas de raffinage sur place. Donc, pour schématiser, quand il y a eu donc, une aide pour exploiter ce filon, donc, l'argent a été donné, mais il fallait absolument qu'il y ait donc, des ingénieurs expatriés, européens, français surtout, que tout le matériel soit acheté ici forcément, que pour y vivre, il fallait acheter donc des préfabriqués ici, alors qu'il y a des bons maçons là-bas qui construisent des maisons. Et donc il fallait absolument que la vie des expatriés là-bas soit la vie en France transposée là-bas. Donc, cette aide était déjà revenue en France avant même qu'on ne commence à exploiter. Voilà. Et donc, une fois qu'on exploite, tout le minerai est envoyé ici, aux frais de la société. Et juste pour terminer, sur l'aspect colonialiste, il ne fallait surtout pas que les expatriés s'intéressent, si ce n'est par le biais de la prostitution, à des Burkinabés. Voilà. Donc il fallait absolument rester, c'était de l'entre-soi. Tous les produits qu'ils consommaient venaient d'Europe, de France, forcément. Et c'était fait en sorte pour qu'il n'y ait pas de mélange.
Enfin, ça, c'est le cas pour toutes les extractions minières, où que ce soit en Amérique latine, les compagnies importent dans un container les gens et leur décor. Mais ça, c'est même au-delà de la France-Afrique. Hein.
Il n'y avait pas de... Là, le Mali, quand même, juste à côté du Burkina Faso, donc, il n'y a pas de communication entre les communautés villageoises qui sont soumises à ces mêmes problèmes d'exploitation minière. Est-ce que ça se fait ou pas en Afrique ? Ce qui est ça aussi ma question, parce que là, on parle d'Amérique latine.
Oui.
Mais là, les pays sont tout proches. Mmh. Donc, moi, voilà, je n'étais pas du tout au courant. Je savais autant que je savais que le Burkina Faso, il y avait des mines d'or, grâce à Mali, mais aussi parce que... Ça, j'avais déjà entendu avant, mais je ne savais pas du tout qu'au Mali, par exemple, il y avait de l'or. Et donc, moi, j'avais aussi une autre question à me poser, parce que vous avez commencé en expliquant que c'est en 2011, il y a eu des rencontres avec l'EBA, à l'initiative des sans-papiers de Paris. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi les sans-papiers de Paris ont eu cette idée de faire ça. Voilà, c'est quand même assez original comme démarche. Donc, je voudrais bien savoir quelle était la démarche qu'ils avaient derrière. Pour quelle raison ils ont estimé que c'était indispensable de faire ces rencontres ? D'autant plus que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient. En effet, le problème rural, en fait, les populations des paysans, la question de leur paillage, communauté libérale, après l'immigration. Donc en effet, c'était un petit concentré un petit peu de tous les problèmes qui se posent actuellement.
Comment fait-on parce que...
Peut-être oui, parle à Nicole et puis après...
Donc sur la Guyane, la Guyane a une tradition aussi au niveau de l'or avec les premières migrations, notamment des populations de Sainte-Lucie, mais c'était beaucoup de c'était fait de manière assez traditionnelle et des quantités d'or. Enfin, il y a quelques...
Vous pouvez dire ce que c'est cette extraction traditionnelle, parce que, est-ce qu'il y a du cyanure depuis le début?
Alors, je ne pense pas qu'il y avait du cyanure.
Il y a 1000 ans, par exemple.
Ah oui, là, c'était, il n'y avait rien comme...
Oui, ben oui, c'était donc à la main.
À la main, avec les bâtés.
Oui. C'est ça,
exactement.
Oui, ça,
il n'y avait pas de cyanure.
Mais, non, alors peut-être qu'ils utilisaient autre chose, mais pas du cyanure.
Non, en tout cas, la technique d'amalgame, elle est récente.
Mais... Et puis, mais il y avait quand même de grosses quantités d'or qui partaient sur la France. On était encore à l'époque coloniale, avec la séparation du territoire, le territoire de l'Inini, qui est connu, qui fait 90% du territoire, avec une séparation, avec un gouverneur, et tout ce qui était exploité sur ce territoire, de toute façon, partait en France. Le territoire de l'Inini qui arrête en 1970, et même s'il y avait la départementalisation en 1946, ça ne change rien de toute façon. Et puis cette activité, c'est un peu délité. Et depuis quelques années, maintenant, je pense 80, enfin avec l'arrivée des Garimpeiros qui a montré le phénomène, il y a une exploitation d'or sur la Guyane. Il y a plein d'opérations harpies, anaconda. Je pense que vous avez entendu parler. Où dans les médias relatent ces opérations. Mais avec cette espèce d'opacité sur le nombre d'or qu'ils récupèrent à chaque fois, mais on sait que ça part, ça ne reste pas sur le territoire. Donc il y a les populations qui, aujourd'hui qui ne sont pas d'accord et qui manifestent là-dessus, et il y a le projet Montagne d'or, alors, qui fait couler beaucoup d'encre depuis plus de 6 mois, parce qu'il y a une société canadienne qui doit venir s'installer. Mais là, on demande aux populations leur avis et on est à peu près à 50 pour et 50 contre. Alors les contre, c'est vraiment radical, non. Et les pour, c'est avec cette idée d'extraction, mais avec des aménagements. Et c'est sur les questions d'aménagement qu'il y a des désaccords, parce que justement, ça veut dire quoi équitable? Les populations qui seraient concernées, ce sont les populations amérindiennes qui connaissent déjà les problèmes du mercure avec des enfants qui naissent avec de gros handicaps, le problème des poissons qui sont... des populations qui se nourrissent beaucoup de poissons, et les poissons sont déjà contaminés. Et puis là, après, ça pose aussi des problèmes de criminalité, de prostitution, d'autres fléaux, de drogue, d'alcool qui arrivent dans ces zones qui étaient relativement protégées. Donc sur ces groupes, les groupes favorables, alors on a le président de région, enfin de la collectivité territoriale qui est favorable, et puis d'autres mouvements, les mouvements de décolonisation sociale qui est le groupe d'opposition qui est contre. Mais personne aujourd'hui ne peut avoir je pense qu'il manquerait un discours un peu nuancé sur ces questions. Alors, les contre, on peut comprendre qu'ils n'en veulent pas du tout, mais quelles alternatives ils peuvent proposer? Parce que là, on parle aussi de développement économique, d'écologie. Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'autre? Et la question des pour, ce serait effectivement réfléchir à... D'accord pour l'extraction, mais peut-être limité dans le temps, ou encore avec des compensations à un moment donné. Donc c'est des vraies questions, et il ne se passe pas un jour sans qu'on ait ces questions qui arrivent devant la scène.
C'était le débat que Michel abordait. Faut-il extraire à tout prix? Ou qu'est-ce qu'une compensation équitable?
Oui. Ou si on n'extrait pas, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre, sachant que la Guyane est connue pour sa diversité, sa biodiversité, est connue pour la richesse de son sous-sol. Mais si, pour l'or, ça va se poser, mais si on s'intéresse à un autre métal, ça va se poser aussi.
Ah bah oui.
Donc de toute façon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on aimerait? Et si on décide de ne pas exploiter le sous-sol, d'accord, mais qu'on arrête aussi de nous dire que c'est une possibilité de développement et qu'on arrête aussi de faire croire que c'est une possibilité de développement et que les gens, même qui utilisent leur portable tous les jours et qui veulent des ordinateurs et qui veulent avoir, là c'est la Coupe du Monde, tout le monde voudra avoir les films, les
écrans plasma.
Les écrans plasma, mais tout le monde voudra avoir les matchs en direct, tout le monde voudra être de la fête, qui se rendent bien compte aussi que ça, c'est fait ailleurs. Donc je ne veux pas chez moi, mais je veux bien que ça se fasse ailleurs. Et je ferme les yeux. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut être clair sur ce qu'on veut. Et c'est compliqué. C'est une question compliquée. Et en plus, c'est des questions... Par exemple, moi, je fais partie d'une association de trépanocytaires. La Montagne d'Or, par exemple, elle nous propose de financer certains projets. Quand on a posé la question aux membres, il y a certains qui étaient contre parce que c'est la Montagne d'Or et parce que c'est de l'extraction d'or. Il y a d'autres qui étaient pour en disant, essayons à minima d'utiliser ces ressources pour faire avancer la recherche sur un problème qui n'intéresse personne. Et on se retrouve confronté à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend quand même ou est-ce qu'on ne prend pas? Mais on ne prend pas, on n'a rien et on n'aura rien. Et on prend, on se retrouve avec certains membres à dos. Donc c'est compliqué, c'est super compliqué ces histoires. Et on n'a pas de solution. Alors aujourd'hui, le sujet est en réflexion, mais tous les jours, enfin moi je reçois des messages sur Facebook, sur les groupes, sur ces histoires de Montagne d'Or. Et il y a un projet aussi de recherche à grande échelle, où la Montagne d'Or accepterait aussi de financer, parce qu'ils essaient aussi de se faire accepter.
Oui.
Bien sûr. Mais aujourd'hui, personne ne veut donner. Enfin, personne ne pourrait financer cette étude.
Ouais,
donc, on fait quoi ?
La main qui reçoit est toujours au-dessous de la main qui donne.
Ouais.
Et on ne ramasse jamais un caillou avec un seul doigt.
Mmh. Voilà.
Non, mais c'est des questions
très
compliquées.
Utile, ces deux phrases-là. C'est compliqué, mais. Je répondrai à votre question, mais j'ai envie de me brancher là-dessus. C'est compliqué aussi, ou surtout, ça chacun verra, parce que nous n'avons pas les données et les outils qui permettent de débattre.
Parce que y a, de toute façon, on est bien d'accord que le BRGM, on est bien d'accord que plein de... Il y a un certain nombre de financiers qui gravitent autour et qui ne vont pas donner l'information. Ce n'est pas possible de ne pas savoir quelle est la quantité d'or qui est extraite en Guyane. Ce n'est pas possible de ne pas savoir ça.
Les gens le savent.
Mais bien sûr que les gens le savent. Et comment ça se fait que les gens le savent? Et comment ça se fait que ces quantités... Alors, à un moment donné, les Guyanais disaient, mais qu'on ne nous donne pas la totalité, mais qu'on nous en donne un peu, eh bien, même pas. La route, c'est un territoire enclavé. Les routes qui, y a des routes qui existent dans les forêts. Il y a des routes qui ont été faites à un moment donné avec. Ces routes existent déjà. Comment ça se fait que le territoire reste enclavé? Il y a des volontés Donc quelque part, on sait bien qu'il y a une espèce d'opacité. On sait bien que soi-disant on travaille pour la transparence. Les opérations impies. On nous raconte que c'est 10 kilos d'or qui ont été saisis. Bah, arrêtez. À un moment donné, il faut arrêter. Un petit peu, quand même. Un petit peu. Je pense un petit peu. Parce que déployer autant de personnes sur des choses qui coûtent aussi cher pour 10 kilos d'or, en plus, c'est 10 kilos d'or. Alors, ok, on veut bien croire qu'il n'y ait que 10 kilos d'or. On veut bien croire. Ils sont où, ces 10 kilos d'or?
C'est ça, en plus.
C'est déjà pas mal, 10 kilos, quand même. Hein.
Oui, enfin.
Sur une année?
Ah ben, les petits empailleurs, c'est quand même un kilo, c'est quand 225 millilitres d'eau. Hein, c'est...
Quand tu vas à Maripasoula, plus grande commune de France, tout le monde s'enorgueillit, toute plus grande commune de France, tu fais vol, ça dure une heure, tu vois les dégâts, les espèces de fosses, de trous, de saccage, c'est impressionnant.
Oui, oui.
Impressionnant.
Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la production artisanale.
Non, mais moi je te parle des graines perroques. Enfin,
les graines perroques,
oui, mais ils sont pas, il n'y a pas qu'un groupe. Hein.
Oui.
Il n'y a pas qu'un groupe. C'est, on nous fait. Enfin, Moi, j'ai du mal à croire aussi que les Garin Perros, c'est que de l'artisanat. Hein. Quand tu vois comment ils sont équipés, j'ai du mal à croire que c'est deux, trois copains qui se connaissent et qui ont envie d'y aller. Hein. Il faut arrêter, là. Voilà, c'est ça. Non, non, on nous fait croire que les Garin Perros, c'est tout. Non, non. Ils sont organisés. Et même au niveau armement, c'est pas deux, trois copains qui achètent. Donc derrière, de toute façon, il y a... Oui,
c'est combien le cours de l'or, maintenant?
J'ai les cours de 2016, là c'était 1 600 $ l'once. Il a monté à. Le plat,
10 000 euros le kilo.
Ah, donc 10 000 euros en kilo et, ouais. en euros. Alors là, j'ai.
Ah voilà.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais je crois même que c'est plus que 10 000. Hein.
Mais ça a dépassé alors, parce qu'il y a 6 mois, c'était 10 000 euros. Justement, je m'intéressais à
10 000
pour un kilo. Pour un, vous savez, le lingot.
Le lingot,
il fait un kilo. Oui, 10 millions. Enfin, à peu près, grossièrement. Enfin. Oui, je suis très approximative.
Non, c'est pas ça, c'est que.
5, c'est peut-être voilà, 2, enfin, je sais pas.
Une once, c'est 35 grammes, donc il faut refaire le calcul, je sais pas.
Et puis ça change, en
plus. Ouais, ça change tout.
Voilà, alors, c'est pas une monnaie, mais c'est une valeur refuge technique. Enfin, peut-être les problèmes de craque, qui nous sont dits menaçants au-dessus de la tête, il y a plein de gens qui ont comme valeur refuge l'or actuellement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils augmentent hein, aussi. Le marché de l'or.
Et où l'once c'était ?
Comment on s'en dit ?
L'once.
35 grammes.
C'est 35 grammes.
Mais le cours ?
Le cours en 2016 c'était 1 600 $, donc je suis désolé, mais enfin bon.
Ouais.
Et le plafond atteint, ça a été en 2011, 1 900 $.
L'once.
Mais, alors, puis après, j'ai d'autres petites choses que j'ai envie de dire. Il ne faut pas se polariser sur le dollar et sur l'euro. Parce que, pendant que... Un des arguments, c'était oui, mais l'or baisse sur ces deux places-là. Il y a la Chine, et puis il y a d'autres pays, j'ai oublié la monnaie brésilienne, mais là, ça n'a pas...
Rien.
Je l'ai fait en 2016, donc maintenant, peut-être que c'est redescendu, mais au moment où j'ai regardé, ça montait pour des tas de monnaies autres que le dollar et l'euro.
Bien sûr.
Donc, ça donne envie de penser que...
Ça reste
on met de l'or de côté en attendant.
Ça reste un étalon.
C'est une réserve de valeur.
Oui, c'est une réserve de valeur, oui. Oui, bien sûr.
C'est inaltérable.
Ouais. Mais il y a une chose importante que j'ai envie de dire par rapport à ce que vous avez dit. On est tiraillé dans l'association. Si on ne prend pas cet argent, il y a des recherches importantes qui ne se font pas, etc. Je trouve que ça pointe une question qui n'est pas... très visible, mais qui est fondamental, c'est que l'on n'a pas les données pour argumenter. Si on pouvait mesurer, ce que personne ne fait actuellement, le coût des dégradations environnementales, par exemple, et qu'on puisse établir des comparaisons, une espèce de calendrier, quoi, vous êtes condamné à prendre une décision dans le présent. Alors que si ça se trouve, et là je suis obligé d'inventer parce qu'il n'y a pas les études pour ça, dans 10 ans, le coût sanitaire, social va être considérable.
Non mais on sait déjà qu'il y a un coût sanitaire et social. On sait déjà qu'auprès des populations qui sont sur les communes isolées, sur les communes des fleuves notamment, Maripasoula, Bata, etc., à l'ouest et l'est de la Guyane, on sait déjà qu'il y a des populations qui en souffrent.
Mais justement, la question qui se pose, est-ce que tu acceptes de donner bonne conscience en acceptant cet argent ?
Aujourd'hui, c'est une question. Je n'en sais rien. Et en plus, c'est une question qui est vraiment d'autant plus difficile, sachant que nous, on peut rien faire, on manifeste, on n'est pas d'accord. Mais il n'y a rien non plus qui est fait contre l'orpaillage clandestin.
Oui.
Et si là, la société...
Voilà. Moi, je vais donner un exemple vécu. Dans les années 90, quand j'étais sur la question des enfants des rues, j'ai accepté de l'argent de la fondation ELF au Congo. Hein. que elfes au Congo, machin, etc. Et finalement, je suis rentré dans une spirale. Ils m'ont pris dans le petit avion privé pour faire un Brazzaville-Pointe-Noire, aller visiter leur centre de santé, qui en fait était un centre de santé réservé aux expatriés, puis mettre une estampille Centre international de l'enfance sur... voilà, et ils pouvaient se glorifier. Voilà, ça. Je me suis retiré très vite. Il y a de l'argent qui pue, il y a de l'argent qui emprisonne, il y a de l'argent qui dévoie, et je pense qu'il faut vraiment avoir un principe. Mais des questions de principe, parce que comme Michel le souligne, on a une décision à prendre tout de suite. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer, on peut pas, si on n'a pas un principe d'étanchéité absolue entre l'acceptable et l'inacceptable, on met un doigt dans un engrenage et c'est foutu, c'est fini.
Mais je maintiens quand même qu'on manque cette estimation du coût des dégradations de l'environnement. Ça nous donnerait quand même des arguments incroyables. Je vais ramener ça à une situation très ponctuelle qui concerne les compensations que les sociétés donnent aux communautés villageoises au Mali. Dans le cas de Fadougou, dont je vous ai montré les images, quand le chef de village a, après moult consultations dans son conseil, a fini par accepter qu'un prospecteur vienne s'installer. Il a même demandé aux jeunes de lui préparer le terrain. Enfin, il a vraiment accueilli. Dans son idée, quelqu'un qui vient habiter chez lui, donc sur son territoire villageois, c'est quelqu'un avec qui il y aura à vie quelque chose. Nos sorts deviennent liés. Ça n'est pas du tout la logique économique. Et ce vieux chef de village était convaincu que ce qui était dit par les prospecteurs, qui évidemment disparaissent une fois qu'ils ont trouvé l'or, on change de société, c'est plus des juniors, c'est des seniors, c'est plus le même argent, c'est fini. Donc le gars, il a pu faire toutes les promesses qu'on voulait, une fois que l'or est trouvé, on change de cours, c'est plus les mêmes acteurs et ils ne sont pas tenus par les promesses des sociétés de prospection. Ce chef de village était convaincu que, puisqu'ils venaient s'installer sur son territoire, ils allaient ensemble faire prospérer ce territoire. Ils acceptaient de déplacer le village, ils acceptaient de cultiver sur d'autres terres. Et la contrepartie à long terme, c'est l'embauche des enfants du village et leur formation. Puis c'est pas du tout ce qui se passe. Ils vont chercher des diplômés ailleurs, etc. Et les enfants sont sans terre à cultiver et sans emploi. Bon. Ça, c'est... Là, je le raconte sur un cas. C'est tout le temps comme ça. Et on n'a pas les outils en économie pour traiter cette question. Nous-mêmes, on pense avec les grilles de pensée qui sont utilisées par ces sociétés minières et pas... qui ne s'adaptent pas aux manières de penser des gens qui se font piller, quoi. Et donc, il faudrait, même si je pense qu'il faut évidemment sauver d'autres valeurs que l'argent, c'est pas du tout mon propos, mais d'avoir quelques outils, des données, des quantifications financières pour que les gens se rendent compte que c'est le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Il y a eu, dans une des communes où j'étais, il y a eu une énorme fête parce qu'un jeune a trouvé une pépite de 300 grammes d'or. C'est énorme.
Alléluia, oui, ça.
C'est énorme.
Et bien, vous voyez, et bien, vous savez, ça fait vivre une famille de 30 personnes avec 2 dollars par jour pendant un an. C'est-à-dire rien du tout. Il faut faire le calcul. Mais, voilà. Ça, je ne m'attendais pas, et on faisait 300 grammes d'or d'un coup, l'avenir est assuré, pas du tout. Manger coûte cher, s'il faut tout traduire en... si on ne peut pas se servir dans son potager, son poulailler, etc. Tout ça coûte 2 dollars par jour, c'est le seuil de pauvreté. Hein. Donc, il faut, même si c'est approximatif, c'est très utile, parce qu'on se rend compte tout à coup que l'écart est monstrueux. Et les sociétés minières font des concessions. Elles construisent des puits, elles font des choses, elles achètent la paix sociale.
Ah, bien sûr. Mais pour rebondir à ce que tu dis, il y a le CNES, on lui a
le
sens spatial. On sait tous que quand une fusée part, avant, après, on aura des épidémies, soit de conjonctivite, il y a plein de choses qui se passent. Les fusées continuent à partir. Avec une augmentation, avant on était à 2-3 fusées par an, aujourd'hui nous sommes à 12 fusées par an. Ça veut dire qu'il y en a une par an. On sait très bien qu'avant, après, il y a des conséquences sur l'environnement. Hmm. Ça continue ?
Bien sûr. Non, bien sûr. Oui.
Et alors, la mesure, c'est de dire que les animaux, s'il y avait de la pollution, on n'aurait pas eu d'animaux à proximité, parce qu'en plus, quand vous allez visiter, on va vous montrer qu'il y a des jaguars qui reviennent, il y a des cabiais, etc., etc. Donc la biodiversité se porte bien. On oublie de nous dire que de toute façon, il y a une augmentation de la population, donc il y a une construction, et les animaux, les populations à l'échasse. Voilà. Donc à un moment donné, c'est pas parce que l'environnement est plus sain, c'est parce que la population augmente, donc ces animaux-là, ils vont où il y a de la place. Et le CNES, ce qu'ils ont fait, ils financent l'IUT pour que désormais les locaux se forment. Ils financent 2-3 actions de temps en temps, ils financent le carnaval pour avoir la paix sociale. Mais si on calcule ce que c'est en termes de dégâts, sachant qu'Internet en Guyane, ça coûte super cher. Mm-hmm. Alors qu'ici, on a un forfait à 20 euros et on s'en sort plus tôt. En Guyane, c'est même pas un rêve, quoi, le forfait à 20 euros. Donc c'est les mêmes. On est sur des problématiques identiques. Sur la fusée, on sait très bien les dégâts que ça cause.
Oui, oui. Alors, peut-être, parce que Stéphane n'a pas eu pourquoi les sans-papiers.
Parce que bien des sans-papiers sont originaires de là.
Voilà.
Ce sont les mêmes. Et leurs préoccupations, ils sont tous au fidio. Les jeunes qui migrent, ils sont diplômés, ils ont réfléchi, ils se trouvent sans-papiers parce que l'État fabrique des sans-papiers. Mais ils réfléchissent aux raisons pour lesquelles ils ont été obligés de partir, quoi. Donc ils agissent, c'est pas du tout sur... Alors, c'est ce que j'ai compris, voilà, j'ai découvert à ce moment-là, évidemment. Mais les sans-papiers de Paris ou d'ailleurs ne se mobilisent pas seulement pour avoir des papiers.
C'est bien ça.
Pas du tout. Par contre, c'est vrai, c'est pas aussi dans l'idée, parce que des fois, il y a aussi cette dimension qui peut rentrer des tentes, pas toujours, dans la migration aussi, des fois, dans certaines populations, ça fait partie aussi du parcours initiatique, des fois. Il y a bien certains qui migrent, parfois.
Oui, mais là, effectivement, il y a une trentaine d'années, mes amis migrants avaient plutôt été sans doute dans leur enfance et leur jeunesse dans cette dynamique de culturelle, parce que donc au Mali, dans les zones où je vais, il y a à la fois des soninkés, des kassonkés, des peuls, les bambaras ne bougent pas, par exemple, c'est surtout les soninkés. C'est vrai qu'il y a des traditions culturelles, mais je crois qu'on a changé de... À Kenyeba, c'est des malinqués, il y a des peuls. Ça m'ennuie de donner une étiquette, parce que les enfants ont deux parents. Mmh. Ils peuvent avoir un parent,
bien sûr,
un père peul et une mère bambara. Mmh. Donc, l'attribution d'une étiquette ethnique est une construction de la colonisation.
Oui.
Mais voilà, on a maintenant du mal à...
À sortir.
À en sortir. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je ne me rappelle plus à quelle question ça se raccroche, mais je me suis dit tout à l'heure qu'il fallait évoquer ça. C'est la question des langues. Ah oui, c'était sur l'école. Une des manières, près de Kenyeba, pour fabriquer l'échec scolaire, j'ai jamais vu un système aussi performant. On envoie des enseignants soninkés dans des zones bambara, des enseignants bambara dans des zones malinquées, etc. Donc, l'enseignant ne parle pas la langue de l'enfant et il doit lui apprendre le français d'entrée de jeu. On ne me fera pas croire que ça, n'est, que ça pouvait passer inaperçu, cette absurdité. Quoi. Donc voilà, si tant qu'on...
Bien sûr,
et les Mayas eux-mêmes, tout, ça fait partie des paradoxes ou des... Voilà, ils ont envie d'apprendre le français, parce qu'avec le français, on peut voyager, on peut faire ceci, on peut aller à l'université, on peut faire des choses. Et donc, eux-mêmes déqualifient un peu leur langue, quoi. C'est, on est dans des situations, des héritages coloniaux, coûte cher.
C'est anglais.
Oui, dans les villes, quoi.
Pas encore le chinois?
Si, sans doute. Sans doute, parce que le troisième grand pont de Bamako est un pont qui a été construit par les Chinois. Les Chinois sont dans la Falémée, je vous les ai montrés.
Oui.
La langue, j'ai pas beaucoup vu.
Parce qu'ils ont besoin d'interprètes, les Chinois.
Oui, oui. Et, ah, ça oui. On est allé sur les barges, là, et alors, est-ce que c'est une défense ou est-ce que c'était une réalité? Les gars auxquels on a eu affaire ne parlaient pas bambara, ne parlaient pas malinké, ne parlaient pas français, ne parlaient pas anglais, et on fait comprendre que leur traducteur était parti.
Ça, c'est classique. C'est un grand classique. Un grand classique, parce que justement, ça permet d'éviter tout contact.
Voilà. Mais c'est quand même cette question de pas de contact qui a été évoquée à plusieurs reprises, je crois, à propos des expatriés et tout ça. Pour moi, qui observe la coopération, l'histoire de la coopération décentralisée française, depuis 2007-2008, je ne peux pas situer exactement, et on le voit avec la manière dont la France traite les migrants, les réfugiés, l'idéal, c'est chacun chez soi. Comme ça, on pourra maîtriser les discours et l'image de l'autre. Mais il n'y a plus du tout d'argent dans la coopération décentralisée pour poursuivre des projets qui étaient très critiquables par ailleurs. Hein. Je ne veux pas défendre ce que fait la coopération décentralisée. Mais depuis 2007-2008, on nous disait « n'allez plus là-bas ». Et il faut entendre « ne témoignez plus, ne nouez plus d'amitié ».
Oui, justement, c'est une question...
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. L'évolution.
Alors... Oui, c'est-à-dire que la recherche des gens comme vous qui sont rétribués par l'État, c'est ça? La recherche que vous faites.
Je suis fondé, absolument, mais je n'ai pas d'argent pour faire ces recherches.
Non, bien sûr, mais vous êtes sous la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une entreprise, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous n'avez pas de conflit d'intérêt, que si vous y allez, c'est pour un intérêt pur, de recherche. Et c'est vrai que ça, c'est en train de disparaître. Mais c'est, voilà une solution. Enfin, moi, je suis très, très pour le service public, pour... voilà. Et donc, je pense que quand on dit qu'on n'a pas d'éléments, on n'a pas de chiffres, on n'a pas... C'est parce qu'on n'a plus d'études, on n'a plus d'équipe de chercheurs, on n'a plus de lien avec le terrain, etc. Donc, une des solutions, enfin, moi, je soutiendrais qu'il faut que le service public reprenne la main sur ces choses-là. Voilà.
Oui.
Donc, ça, c'est bon, c'est un leitmotiv, c'est ce que vous voulez.
On partage, bien sûr.
Je soutiens à fond. Bon. Et deuxièmement, ce que vous dites là, sur l'Afrique ou sur le continent latino-américain, la France, puisque la Guyane, quand même. Malgré tout, ça m'évoque le problème en France même. C'est-à-dire, bon, il y a l'histoire des peaux rouges, etc., mais il y a aussi une extraction de terres rares dans le sud-ouest qui a été abandonnée du fait de la difficulté, de la toxicité et du peu d'acceptation par l'environnement. Mais il y a quelques dizaines d'années, la France produisait ces métaux rares. Alors je ne sais plus lequel c'était, mais c'est pas l'uranium, enfin non, c'est pas l'uranium, je ne sais plus lequel c'était. Et ils ont abandonné, laissant une désertification autour d'eux, une misère sociale importante. La question, c'est celle-là. Faut-il rouvrir cette mine, c'est-à-dire faut-il extraire à tout prix, ou faut-il trouver des compensations pour trouver de l'emploi en France. Et moi, ça m'amène à cette réflexion que je trouve assez remarquable, que j'ai entendue l'autre jour, qui est, quand on parle de l'Afrique, c'est Fanon hein, qui disait ça, quand on parle de l'Afrique, intéressez-vous-y, parce que c'est de vous dont on parle bientôt. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, tout ce qu'on dit là en Afrique, c'est nous, là, dans 10 ans, voilà. Ces questions-là, c'est très bien. Moi, ça m'a beaucoup apporté de les délocaliser sur le Mali ou sur la Guyane, mais je sais très bien que c'est quelque chose qui se pose en France aujourd'hui à toute vitesse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
moi. Ah ben, je suis complètement d'accord. Une société australienne a eu un permis exclusif de recherche, un PER, en Bretagne pour le nickel. Et c'est un ingénieur du BRGM à la retraite qui a vendu très cher à cette donnée qui date de 70, qui a vendu très cher cette donnée à cette société australienne qui est venue, qui a négocié avec l'État et qui a eu un permis. Pour... Alors en Bretagne, les gens sont. Eux, ils bougent quoi. Mais voilà, et donc je pense qu'ils vont. Le Variscan, elle s'appelle cette société, elle va finir par partir parce que. La protestation sociale est très forte, mais voilà.
C'est comme ça que j'entends parler de ces choses-là, c'est parce que ça bouge dans certains dirigeants en France et que ces questions-là sont posées. Notamment le dernier livre là, qui est paru sur les métaux rares, quoi, sur le trafic mondial des métaux rares, qui est remarquable. Remarquable.
Et sur une autre question, le passe, le plan d'ajustement structurel, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand même avec la Grèce. Donc c'est tout un plan qui a mis des pays africains à genoux au nom du libéralisme, du néolibéralisme. Là, on a, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça,
c'est ça, c'est ça, c'est positif.
Et ça ne nous fait pas, on ne va pas se quitter sur une note très gaie parce que. Non, mais les dirigeants grecs ont fait un référendum qui a été gagné à 65 ou 66%, et ils ont quand même perdu au niveau de l'Europe. Donc, que faire, quoi, on est mal. Hein.
Bon.
Allez. Merci.
Merci beaucoup.
Au lecteur.